Emmanuel Linco, bonjour.
Bonjour.
Alors 2012 est une année importante en termes de géopolitique mondiale, car nous sommes à un tournant décisif entre l'Amérique et la Chine, puisque les deux premières puissances économiques du monde changent en même temps de président.
Oui, c'est un enjeu important, mais en même temps, ce ne sont pas les mêmes finalités, les mêmes postures non plus. C'est la première chose qui saute aux yeux d'emblée quand on compare les images de la réélection d'un Barack Obama et les images datant d'il y a quelques jours où l'on voit les caciques du régime arriver au plénum. Évidemment, il y a deux mondes, deux chronologies même qui s'affrontent ou qui s'ignorent plutôt. Hein. On a vraiment l'impression qu'on n'est pas du tout effectivement en accord de ce point de vue-là.
Non, c'est vrai, c'est deux planètes différentes. Alors, pour Xi Jinping, devenir le président de 1,3 milliard de Chinois, c'est quand même une sacrée responsabilité.
Oui, et ça montre à quel point aussi on a un régime qui est de plus en plus archaïque d'un point de vue institutionnel, parce que certes, comparativement, Barack Obama est aussi le président d'une grande puissance, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une démesure, un déséquilibre flagrant d'un point de vue de la représentativité du pays et des institutions qui précisément semblent ne plus du tout tenir compte ou n'être plus du tout en phase avec l'évolution de la société chinoise. Et donc il faut rappeler que ce parti communiste reste dans ses structures relativement immuables hein, depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1921. Certes, il y a eu avec les années Mao et surtout son successeur Deng Xiaoping, des modifications, notamment par rapport à l'établissement des mandats présidentiels. Mais sinon, d'un point de vue de son organisation, on a des structures de cellulaires, c'est-à-dire que du haut vers le bas de la société, dans chacune de ces cellules, quelle qu'en soit l'importance, il faut obtenir un consensus entre les membres de la cellule pour qu'une décision soit prise, à l'unanimité. Bon. Et évidemment, le processus décisionnel dans cette configuration-là est évidemment très très lent et pose toutes sortes de problèmes. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un État-parti qui est de moins en moins en phase par rapport aux attentes de la société civile. Et ça, c'est particulièrement dangereux et ça sera le grand chantier, s'il est entrepris, de Xi Jinping, le nouveau président, que de réformer sur le plan institutionnel les structures du parti.
Mais d'autant plus qu'il y a 81, 82 millions de membres, ça fait quand même pas mal.
C'est le premier parti du monde, mais le seul en Chine, faut-il le rappeler, en tout cas dans la réalité, hein, même s'il y a des partis très très marginaux qui ont une désignation, ils ne jouent évidemment aucun rôle, c'est le parti dominant, on le sait bien, et de ce point de vue-là, on a là encore un héritage de la période maoïste, d'une période très totalitaire, et donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait que très peu de choses sur Xi Jinping notamment. Les informations sont très opaques, ce qui dénote à la fois une part de paranoïa des dirigeants chinois, mais aussi, là aussi, un décalage par rapport à l'évolution de cette société chinoise qui, de gré ou de force, s'est ouverte de plus en plus au reste du monde. C'est-à-dire avec des réseaux sociaux qui mettent en face directement la société civile avec les grandes problématiques mondiales. L'élection américaine a été suivie par 750 millions d'internautes, ou quasi, en Chine même. Donc, évidemment, raisonnablement, ça ne peut pas durer, cette organisation-là. Et donc, il y a péril en la demeure. Hein. C'est vraiment le gros chantier qui compte pour les années à venir.
Les Chinois, ils étaient Obama ou Romney?
Au moins avec Romney, il savait à quoi s'attendre, c'est-à-dire sans doute à un clash, parce que Romney ne cachait pas ses intentions de recourir à des manières fortes. Alors est-ce qu'il en aurait eu véritablement les moyens? Ça, je doute par ailleurs. Avec Obama, on sait que ça sera à la fois une politique de la fermeté et de l'accompagnement. Donc on évitera le conflit. Donc c'est plutôt positif pour tout le monde et surtout pour l'Occident.
Alors, que sait-on aujourd'hui vraiment sur Xi Jinping, ce nouvel empereur rouge de la Chine?
Eh bien, on sait que c'est le fils d'un haut dirigeant qui a été le compagnon de route de Mao Zedong. On sait aussi que son père, à la fin des années 70, a été l'un des pères inspirateurs de la réforme initiée par Deng Xiaoping. Et on sait que c'est un homme finalement, qui ne s'est jamais trop compromis, en tout cas c'est l'interprétation officielle dont on dispose, hein, avec les autorités locales. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup déplacé aussi, avec des responsabilités de plus en plus importantes. Donc il a passé toutes les épreuves initiatiques, hein, pour prouver que c'était à la fois un bon cadre, n'est-ce pas, et en même temps un homme qui savait entreprendre, hein. Et il a évité toute forme de collusion justement entre ses intérêts propres et les intérêts du Parti communiste ou de sa famille. Or, on le sait d'ailleurs à travers les déclarations récentes du président sortant Khoutinta, critiquant indirectement l'action même de son premier ministre Wen Jiabao, que la plupart des hauts dirigeants chinois, évidemment, sont corrompus, ultra corrompus. Bon, on sait aussi que Xi Jinping, il ne faut pas se faire d'illusion, est issu d'une famille relativement fortunée, mais c'est quelqu'un de beaucoup plus prudent, et on le sait aussi assez ferme, c'est-à-dire qu'en 2008, il a joué un rôle majeur dans l'organisation des Jeux Olympiques, donc on l'a testé aussi sur ses talents d'organisateur, et en 2009, on a cru vraiment qu'il allait, entre guillemets, mal finir, parce que à Urumqi, au Xinjiang, il y avait eu des émeutes très très importantes, et Xi Jinping avait des responsabilités particulièrement importantes dans la gestion de cette crise. Or, il a réussi finalement à passer l'épreuve de cette tempête. Donc cela montre une très bonne capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, ses talents ont été reconnus, ce qui n'est pas le fait du hasard, là aussi, dans les bulletins officiels que nous envoie Pékin. Sa capacité donc a été saluée par l'ancien dirigeant de Singapour, Lee Kuan Yew, qui l'a comparé d'ailleurs assez curieusement à Nelson Mandela, ce qui prête à sourire évidemment, mais Xi Jinping, il ne faut pas l'oublier, pendant la révolution culturelle a été déporté, comme la plupart des jeunes instruits, c'est ainsi qu'on les appelait, pendant plusieurs années, donc dans la campagne, et de cette manière-là, effectivement, oui, il a peut-être non pas autant souffert que Nelson Mandela, mais il a un passé de renégat à sa manière, hein. Et ça, c'est très important, c'est un signal fort qui est donné par l'organe suprême du Parti communiste, savoir qu'on réhabilite aussi ces gens-là et une génération qui, de fait, a beaucoup souffert. D'ailleurs, le profil de Xi Jinping n'est pas sans rappeler celui d'un homme un peu plus âgé aujourd'hui, mais qui avait été aussi déporté, à savoir l'ancien Premier ministre Zhu Zhongdi, hein, qui lui-même avait été déporté dans la région du Heilongjiang. Bon. Donc c'est une façon aussi d'assurer un continuum entre cette période des années 60 de la révolution culturelle et aujourd'hui. C'est une façon, là encore, paradoxalement, de disculper aussi Mao, si vous voulez. Bon, c'est évidemment très, très pervers, hein, en définitive, mais c'est une façon de dire aussi que on tourne peut-être enfin la page, parce que de toute évidence, de toute façon, c'est une question, je dirais, purement biologique même. Xi Jinping fait partie de cette dernière génération qui aura connu ou quasi la période maoïste. Donc c'est une bonne chose aussi, quelque part, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va enfin passer à autre chose, qui est totalement inconnue, hein, mais on n'aura plus dans le rétroviseur, justement, ces années noires qu'ont été les années Mao.
Et Li Keqiang, le second de Xi Jinping, qui remplace donc Wen Jiabao, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ?
Ben, ce que l'on peut en dire, en tout cas pour ces deux hommes, ce sont des réformateurs, assurément. En tout cas, ils ont ce profil-là. Au vu des résultats qu'on vient d'avoir il y a quelques heures, ce sont quasiment les deux seuls, justement, parmi les sept. Donc, ce qui n'augure pas quelque chose de très bon non plus, hein, c'est-à-dire que, manifestement, et on le savait déjà depuis la destitution fracassante de Bo Xilai, l'ancien maire de Chongqing, il y a des rivalités en interne entre Khoutinta, Xi Jinping d'un côté, qui incarne à leur manière la modernisation et la poursuite des réformes, et de l'autre côté, même si c'est très schématique et même assez grossier, de l'autre côté néanmoins, Jiang Zemin, ancien président, qui n'a sans doute pas supporté le limogeage de son protégé, à savoir Bo Xilai. Et donc, de toute évidence, Jiang Zemin a imposé ses choix dans la nomination des 5 autres dirigeants du Politburo, hein, la quasi-majorité semble-t-il. Cela est si vrai que le très réformateur et libéral Wang Yang, donc gouverneur de la province du Guangzhou, qui s'était fait reconnaître pour ses talents justement de négociateur lors des émeutes de Wuhan au mois de décembre 2011, qui avait mis aux prises à la fois des révoltés paysans et les organes locaux du parti. Eh bien, Wang Yang n'a pas été promu. Hein. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des outsiders et que Hu Jintao a été obligé de composer avec Jiang Zemin pour trouver une solution, là encore, on y revient, consensuelle au sein même du parti. Ce qui pose un gros problème, si vous voulez, d'un point de vue de la stratégie qui va être adoptée par l'actuelle équipe dirigeante à présent. C'est-à-dire que on a un président qui est dans une situation d'empêchement, comme on dit en américain. Hein. C'est-à-dire donc qu'on a un président qui va régner, mais qui ne va peut-être pas gouverner. C'est-à-dire qu'il est neutralisé justement par ses choix. Alors, c'est ce que l'on voit pour le moment. Maintenant, il peut très bien y avoir des changements et ma foi, les 5 autres peuvent se manifester sous un autre jour qu'on leur prête actuellement. Mais en tout cas, on a des modernisateurs qui, semble-t-il, par rapport aux conservateurs, sont en minorité.
Alors, dans la nouvelle équipe, il me semble qu'il y a aussi Chang Dejiang, un homme qui a étudié l'économie en Corée du Nord, et du coup on espère qu'il n'y a pas, enfin, qu'il n'y a appris que l'économie et pas d'autre chose.
C'est l'exemple qui confirme la règle. C'est tout à fait ce que nous venons de dire. Donc il faut rappeler que Zhang a été le remplaçant de Bosilay à Chunsin. Et donc, effectivement, il a fait ses classes en économie en Corée du Nord. Donc, évidemment, ce n'est pas un modèle de libéralisme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même assez inquiétant, mais c'est un gage. Je pense que c'est un gage donné à l'équipe de Jiang Zemin. Mais ça pose véritablement un problème, et cela montre à quel point, justement, on a un organe complètement archaïque. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer constamment un consensus, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est une façon d'assurer une stabilité en interne, mais ce n'est sans doute pas une bonne chose pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on a souvent parlé de consensus de Pékin. Moi, je vois plutôt le prélude d'un dissensus de Pékin même.
Est-ce qu'on peut dire que la corruption gangrène le parti ou que l'affaire Bosilay est une exception ?
Non, la corruption est omniprésente à tous les niveaux de la société. Alors, il y a, comme le cholestérol, du bon et du mauvais cholestérol. Il y a une bonne et mauvaise corruption. La bonne corruption, on le sait bien, les historiens spécialistes des révolutions industrielles européennes l'ont démontré. Elle est, je dirais, consubstantielle au processus du développement industriel. Mais à un moment donné, les réformes politiques doivent voir le jour pour encadrer justement ce développement économique et faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de corruption. Pourquoi ? Parce que le problème, si vous voulez, c'est que ces problèmes de corruption généralisés engendrent une crise de confiance dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire que vous rencontrez par exemple un journaliste. Dans la majorité des cas, malheureusement, même si on a des exemples de singularité tout à fait héroïque et courageux, véritablement, la plupart sont ultra corrompus, c'est-à-dire achetés par tel industriel ou bien par le parti. Donc on achète leur silence, véritablement. Bon. C'est vrai également pour les juges. Donc les juges sont achetés, donc il n'y a pas du tout d'impartialité dans le jugement et les analyses des uns ou des autres. Donc ça pose un gros problème parce que cela revient à dire et à constater tout simplement qu'on n'est pas du tout dans une logique de séparation des pouvoirs. C'est le problème de la Chine et depuis toujours. Hein. Et donc cette réforme institutionnelle doit conduire à une logique de séparation entre les pouvoirs. C'est la condition même de la stabilité à très court terme justement de la Chine et il en va même de la survie de l'État parti véritablement qui se marginalise à vitesse grand V parce que plus personne ne fait confiance aux instances dirigeantes, quelles qu'elles qu'elle soit. Mais cette crise de confiance, on la retrouve par rapport à des problèmes tout à fait élémentaires et quotidiens. C'est-à-dire qu'une famille chinoise craint d'acheter des aliments empoisonnés, par exemple. Donc, dans un supermarché, on ne sait plus qui est qui fait quoi. Il y a une telle collusion et une confusion des genres et des individus que cela devient assez dramatique. Et donc, cela engendre également des crises, on le sait, au-delà même des sautes d'humeur que quelques groupes d'individus peuvent avoir, des crises très très importantes de paysans ou bien même d'intellectuels hein, qui de plus en plus manifestent à travers les blogs et les réseaux sociaux leur désapprobation, leur colère et leur inquiétude, parce que on a une société véritablement où il ne fait pas bon vivre, hein, qui est même dangereuse. Hein. Je pense tout simplement à la pollution, l'air que l'on respire à Pékin, comme vous le savez, c'est une calamité. On inhale l'équivalent chaque jour de 2 paquets de cigarettes par jour. C'est absolument épouvantable. L'eau est polluée également, même dans les grands hôtels. Enfin, ça devient catastrophique. Hein. Donc, que vous soyez riche ou pauvre, pour le coup, vous respirez, on le sait bien, le même air. Donc, tout le monde se sent pour le coup concerné. Il y a une prise de conscience aiguë et déjà assez ancienne, mais ce que l'on peut reprocher, et beaucoup d'experts le disent, à l'équipe dirigeante sortante, donc Rutinta et Wen Jiabao, c'est qu'ils ont accompagné le mouvement du développement économique qui avait été, je dirais, lancé d'une manière quasi naturelle, c'est-à-dire que c'est un mouvement, bon, certes, qui se ralentit, parler éventuellement même de récession avec un taux de croissance à 7% qui laisse néanmoins rêveur évidemment nos contemporains du côté français et autres, mais cette équipe dirigeante pendant 10 ans s'est endormie véritablement, en tout cas elle donne cette impression vis-à-vis de l'opinion chinoise, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de réformes structurelles et de réformes institutionnelles. Et donc, Xi Jinping se retrouve face à un chantier absolument énorme. Et pas seulement dans le domaine de la politique économique et de tout ce qui relève de la politique intérieure, également de la politique étrangère.
Est-ce que le Parti communiste fait encore rêver les jeunes Chinois ?
Non, vraiment non. C'est-à-dire que c'est une opportunité. C'est un peu, pour dire les choses trivialement, comme si vous aviez une carte gold. Ça vous ouvre des portes. Donc, vous avez une assurance bagage avec une carte gold, par exemple. Bon. Mais sans rire, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous avez des octrois, ça vous ouvre des portes. Le fait d'être membre du Parti communiste, c'est un facilitateur de carrière. Mais je doute qu'il y ait un seul communiste convaincu de la validité même des valeurs défendues par le parti.
Bon, mais c'est quand même bien pratique, cette carte du Parti communiste, apparemment pour faire carrière. On a un petit peu fait un état des lieux là, de la Chine aujourd'hui, mais finalement, moi je me demandais si la Chine n'était pas en train de prouver au monde entier qu'un système avec un parti unique, associé au capitalisme, est une alternative possible au modèle américain, malgré tous les bémols que vous avez mis dans la société chinoise.
Alors, c'est ce modèle que vous décrivez que l'on appelle le consensus de Pékin, précisément, qui est un modèle qui a marqué, qui a montré de son efficacité depuis quasiment 40 ans, effectivement. Donc, volontarisme social, politique et réforme de type capitaliste. Bon. C'est un modèle qui a fait des émules un peu partout dans le monde, côté russe, bien sûr, du côté du monde arabe, un peu moins également chez les Africains. Mais on le voit bien, notamment à travers l'exemple des printemps arabes, ce modèle est de plus en plus contesté à l'extérieur. Et c'est un modèle néanmoins qui a pour originalité aussi de mettre en perspective la nécessité de réformer un pays par l'accompagnement d'un État fort, mais aussi par une innovation technologique. Et ça, c'est le défi véritablement que propose la Chine à l'Occident. C'est-à-dire donc proposer une innovation qui va dans le sens d'un grand bond en avant technologique, véritablement, hein, c'est-à-dire faire en sorte que l'on ait des entreprises propres, moins polluantes en tout cas. Et la Chine, de ce point de vue-là, montre qu'elle en a la capacité. Elle a maintenant le monopole de la fabrication des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. Mais toute réforme économique, aussi bonne, aussi pertinente qu'elle soit, ne peut perdurer sans un encadrement institutionnel fiable. Et cet encadrement institutionnel manque, c'est la grande lacune véritablement. Et par ailleurs, il ne faut pas se faire d'illusions, vous avez maintenant une majorité de Chinois qui n'entend pas changer le régime. Hein. Ce n'est pas du tout des revendications de type arabe précisément, hein. On ne veut pas mettre à bas le régime, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Au contraire, on a la mémoire longue précisément pour certaines choses en Chine et on ne veut certainement pas connaître la période chaotique qu'a connue par exemple l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique, donc dans les années 91-92, certainement pas. Mais l'on plaide de plus en plus pour une plus grande justice sociale. Hein. Donc faire en sorte que la justice soit appliquée, faire en sorte que les gens les plus démunis soient entendus, faire en sorte que les journalistes puissent raisonnablement faire leur travail sans craindre d'être assassinés au coin de la rue, hein, parce qu'on en est là. Hein. Faire en sorte qu'un commerçant puisse travailler librement sans être harcelé par la mafia que soutient le plus souvent le Parti communiste dans les différentes provinces. Bref, il y a un climat absolument délétère et une pesanteur qui fait que les gens manifestent leur ras-le-bol. C'est-à-dire que on veut bien effectivement contribuer au développement économique et les retombées pour la plupart sont réelles, mais ce seuil d'un bien-être matériel ne suffit pas. C'est tout simplement humain. Mais je pense qu'il faut prendre en même temps au mot ce que disent les dirigeants chinois, ou peut-être n'en sont-ils pas suffisamment conscients eux-mêmes, lorsqu'ils parlent de développement intérieur. Ils parlent du développement donc de la Chine intérieure. Mais on peut y voir une autre acception, celle de faire appel à l'homme dans toutes ses capacités humanistes, justement. Alors c'est peut-être très utopique, très, très généreux, c'est un mouvement du cœur de ma part et tout ce que vous voudrez, mais on en est là en définitive, c'est-à-dire qu'il y a une crise, n'ayons pas peur du mot, spirituelle en Chine. Est-ce que la vie que nous avons, nous Chinois, a un sens ? C'est véritablement cela. Et je pense que, enfin, les Chinois, enfin, cela peut paraître très présomptueux aussi de ma part, se posent la question de se dire est-ce que finalement cette vie n'est pas insensée ? Est-ce que, effectivement, bâtir des villes de 32 millions d'habitants, bâtir des villes vides d'habitants aussi, on le sait bien avec la spéculation immobilière qui est absolument catastrophique, est-ce que tout cela a un sens ? Il y a une sorte de réflexion là qui commence à surgir et à s'emparer de l'ensemble des consciences, pas seulement des intellectuels. Hein. Je pense que là, on arrive effectivement à un moment de non-retour.
Est-ce qu'on peut dire que la Chine aujourd'hui fait partie des pays développés ou c'est encore un pays émergent ?
Ah, c'est une société un peu hybride, hein, on le sait bien. C'est-à-dire que vous avez des villes qui sont beaucoup plus développées que Paris, hein, on le sait bien. En termes de transport en commun, on en sait quelque chose et les Français pourraient prendre des leçons en la matière. Mais en même temps, en Chine, au jour d'aujourd'hui, on peut mourir d'une angine, hein, parce qu'il n'y a aucune protection sociale. Parce que si vous êtes chômeur, eh bien, vous n'avez non plus aucune sécurité. Donc ce sont ces aspects-là aussi qui posent des problèmes réels, parce que on a toute une partie de la population qui est complètement laissée pour compte, et une population par ailleurs qui est fragilisée, pour ne pas dire sinistrée. Et donc ça, c'est un problème. Là aussi, il ne peut pas y avoir de développement durable dans tous les sens du mot sans protection sociale. Et là, vous avez un autre chantier absolument énorme, avec toutes les difficultés qui se posent justement à ce pays qui est assez, assez singulier à sa manière, c'est-à-dire que vous avez une population qui vieillit, paradoxalement, Et donc, comme on le dit souvent, la Chine sera peut-être vieille avant de devenir riche. Et ça pose un réel problème, c'est-à-dire que vous avez encore un pays qui, par certains aspects, a des difficultés de type d'un pays du tiers-monde, et en même temps des problématiques qui sont celles de pays développés, comme le nôtre, c'est-à-dire qui va payer nos retraites. Hein. Donc c'est une quadrature du cercle, hein. C'est véritablement un challenge tout à fait considérable, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution au jour d'aujourd'hui non plus. Il faut voir que la Chine est véritablement une énigme. Hein, on sait pas, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir faire face justement à ces problèmes. Mais en même temps, on peut s'en donner les moyens. Et donc le défi majeur justement pour accompagner ces évolutions, c'est la réforme institutionnelle. C'est le point essentiel.
Et pourtant, on dit que la Chine pourrait être la première puissance mondiale dans les années 2020.
Oui, c'est ce qu'on dit, mais il faut être très vigilant par rapport aux chiffres, parce que ce sont souvent des effets d'annonce qui ne font pas forcément du bien. Enfin bon, ça nous darde un peu, ça nous réveille un peu aussi, c'est pas une mauvaise chose. Mais je dirais, d'une part, à quel prix et pourquoi faire ? Hein, voilà les bonnes questions. C'est-à-dire que, bon, bah d'accord, vous construisez une tour au milieu des champs, et alors ? Nous aussi, nous savons faire. Mais est-ce que ça a un sens, vous voyez ? Alors là aussi, ça peut prendre à... ça peut agacer mon propos, mais en tout cas, ça prend à contre-pied finalement tout ce que l'on nous dit, effectivement. Bon, d'accord, être super puissant, mais pourquoi ? Et pourquoi faire ? Dans quel sens ? Voilà, c'est, à mon avis, c'est la bonne question. Et par ailleurs, je ne pense pas que la Chine veuille devenir la superpuissance, et je crois que ce sont des termes même qui sont dépassés, qui sont anachroniques, qui ne correspondent plus du tout à la réalité du moment. C'est-à-dire qu'on est dans une logique post-guerre froide. Donc il n'y aura pas une puissance ou une hyperpuissance, en l'occurrence les États-Unis, concurrencée par la Chine, ou inversement. Il y aura de fait des compétences partagées, avec des tensions, ça c'est évident. C'est-à-dire que les hommes sont les hommes, les États sont des monstres froids, et donc ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Hein. On connaît bien la formule. Mais en même temps, il y a une telle interdépendance d'intérêts qu'on ne voit pas raisonnablement, à moins effectivement d'une déflagration d'importance, mais on ne voit pas raisonnablement comment la Chine pourrait, du jour au lendemain, se situer par rapport à ce statut que vous décrivez d'hyperpuissance. Non, je ne le crois pas. Mais encore une fois, il va y avoir des tensions, et surtout, ce sont les années à venir, donc à brève échéance, qui vont se présenter devant nous, tels des avis de tempête. Ça passera ou ça cassera, et à mon avis ça passera, parce que d'une part je suis de nature optimiste, d'autre part parce que je pense que les Chinois ne peuvent pas faire autrement, et nous avec eux également, c'est-à-dire que l'avenir de la Chine évidemment nous engage, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul problème de la Chine, toutes ces problématiques que nous avons évoquées, développement durable et autres, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises à Pékin comme à Washington, mais effectivement certainement beaucoup plus à Pékin aujourd'hui qu'à Washington, nous engage définitivement. C'est ça qui est tout à fait intéressant et en même temps qui nous donne le vertige, parce que nous sommes à Lille, bon, on a du mal à imaginer qu'à 12 000 km d'ici, quelque part, les décisions qui vont être prises par ces sept personnages au sein du Politburo vont impacter la vie quotidienne des Lillois, entre autres.
Nous écoutions le sinologue Emmanuel Linco à propos de son dernier ouvrage, La Chine en défi, paru récemment aux éditions Éric Bonnier.